France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Comment on fait l'histoire ? C'est notre série cette semaine. Ce matin, chercher des indices ou comment la micro-histoire a renouvelé le métier d'historien au XXe siècle. Au XXe siècle, s'est exprimée au sein des historiens une lassitude majeure envers l'histoire événementielle classique qui sélectionne les événements immédiatement visibles dans la vie institutionnelle et politique. Beaucoup ont désiré creuser plus profond dans la vie des peuples pour comprendre les représentations qui sous-tendent les phénomènes de domination, mais aussi les brèches, voire les imaginaires de résistance. Géographie, climat, courants sociaux, croyances diverses, ceux non immédiatement visibles passionnent l'école des annales qui se crée en France dans les années 1920. À cette démarche, on serait tenté à première vue d'opposer le courant plus tardif de la micro-histoire qui, elle, s'intéresse aux situations individuelles, aux histoires de vie. Eh bien, on aurait tort. Pour les historiens de la micro-histoire comme l'italien Carlo Ginzburg, il s'agit, à travers les petites choses du quotidien, de trouver des indices révélateurs de la manière de penser d'une époque. Des indices souvent tus, réprimés, mais que l'historien peut retrouver. Or, tout cela n'est pas si loin des préoccupations de Lucien Febvre et Marc Bloch, fondateurs des Annales, qui eux aussi cherchaient à atteindre une dimension que Bloch appelait des révélations involontaires. Il y a des liens entre ces démarches, au moins autant que des différences. Nous y réfléchissons ce matin. Et c'est un grand honneur pour nous de recevoir ici Carlo Ginzburg en personne. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Vous êtes un des plus grands historiens de notre époque, professeur émérite de l'École normale supérieure de Pise. Avec Giovanni Levi, vous avez fondé le courant de la micro-histoire, non sans écho, aux travaux sur la classe ouvrière de l'historien britannique E.P. Thompson. Vous avez fait votre thèse, Carlo Ginzburg, sur la persécution d'un groupe de paysans du Frioul au XVIe et XVIIe siècle, accusés d'hérésie. Puis, en 1976, dans votre ouvrage « Le fromage et les vers », vous explorez le monde mental d'un meunier exécuté par l'Inquisition en 1599. Et dans « Le sabbat des sorcières », vous poursuivez votre recherche sur la manière dont, en Europe, on a brisé les vies de personnes, souvent des femmes, accusées de sorcellerie. Vous avez beaucoup réfléchi à ce que veut dire être historien, en sollicitant des concepts philosophiques et en réfutant l'idée que les faits ne seraient que du langage. Et bonjour Étienne Anaheim.
Bonjour.
Vous êtes historien du Moyen-Âge, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous êtes marqué par l'École des Annales dont vous faites vivre aujourd'hui l'héritage. Vous avez écrit vous aussi sur ce qu'est la recherche en histoire. En 2018 notamment, vous avez publié aux éditions de la Sorbonne Le travail de l'histoire.
Le comte de Villars veut des carpes pour les vendre à Lyon. Il semblerait que ces fermages ne suffisent pas pour faire face aux dépenses de sa maison.
Je ne veux pas me mêler de ce conflit séculier. Je suis davantage préoccupé par des histoires de guérison suspectes. J'entends parler d'étranges potions administrées par les femmes de votre village.
Oh. Les femmes, elles ont toutes sortes de façons de soigner. Elles accrochent des colliers d'ail au cou de leurs enfants, elles clouent des chauves-souris aux portes, c'est pas mon affaire. Ni la vôtre.
C'est à cause de la trop grande faiblesse de certains de nos prêtres que les gens se laissent aller à des pratiques hérétiques.
Il n'y a pas de mal dans ce que font nos femmes. Ce ne sont que des superstitions.
Certains actes sont peut-être fondés sur des superstitions, mais ils peuvent conduire à l'hérésie. On doit prier devant des reliques, pas devant des gousses d'ail.
Ici, personne n'adresse de prière à des gousses d'ail, frère Étienne.
J'aimerais rencontrer la femme de la forêt.
Quelle femme de la... Ah ! Vous voulez dire Elda ?
Cette femme est peut-être une sorcière.
Elda, une sorcière ?
J'ai entendu parler de ses pratiques, elles sont suspectes.
Tant de choses sont suspectes dans ce monde, mon bon frère.
Vous Vous entendez un extrait d'un film qui s'intitule Le Moine et la Sorcière, réalisé en 1987 par Suzanne Schiffman. C'est un film inspiré des écrits de l'inquisiteur dominicain Étienne de Bourbon, datant du XIIIe siècle. Et on y voit certaines logiques de persécution de femmes accusées de sorcellerie. Carlo Ginzburg, c'est une période un peu antérieure à celle que vous avez travaillée, qui est plutôt au XVe, XVIe siècle. J'en profite donc pour vous poser cette question. Est-ce que l'historien doit faire attention à ne pas trop vite saisir de la continuité dans les processus historiques qu'il repère? Est-ce qu'il doit être attentif à garder le sens des surprises et le sens du nouveau à chaque période?
Oui, c'est-à-dire que je pense que on peut aussi produire l'inattendu. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de faire avec les documents d'archives. Alors, j'étais à Venise, dans l'archive d'État de Venise, et j'avais déjà choisi un sujet au sens large du mot, c'est-à-dire pas seulement, disons, le procès des sorcelleries, mais aussi l'idée de saisir les voix, les attitudes des femmes et des hommes accusés des sorcelleries. Derrière tout ça, il avait eu la rencontre avec le grand livre de Marc Bloch, c'est-à-dire « Le roi thaumaturge ». Ça m'est arrivé en 1959. J'avais 20 ans, j'étais élève de l'école normale supérieure de Pise, et le livre, à cette époque, le livre de Bloch, était presque oublié ou au moins marginé.
Tout à fait.
J'ai trouvé un exemplaire de la première édition Strasbourg 1924 à Pise par hasard. Mais le livre n'avait pas été réimprimé, il n'y avait pas de nouvelle édition, etc. Et disons, j'ai commencé à lire ce livre et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire le fait que on pouvait imaginer un livre d'histoire conçu dans cette façon. Alors là, si vous voulez, il y a, mon attitude rétrospective. C'est-à-dire que ce livre m'a poussé vers l'histoire.
Oui.
J'étais très conscient de ça. Mais l'idée qu'il s'agissait d'une étude des cas et que le cas impliquait aussi une généralisation, alors c'est quelque chose que je n'ai pas perçu à ce moment d'une façon très très claire, mais j'étais frappé par, disons, l'attention aux documents, en tant que filtre d'un côté d'un complot, c'est-à-dire de la part de les monarchies en Angleterre et en France, pour renforcer leur pouvoir à travers cette croyance dans le pouvoir de guérir le malade des scrofules.
Oui.
Et de l'autre côté, à travers ces documents aussi, de saisir les attitudes, au moins d'une façon indirecte, les attitudes de femmes et d'hommes qui parcouraient des distances parfois énormes pour être touchés par les rois. Il y avait là quelque chose de double. Et d'une façon rétrospective, je pense que ça m'a marqué dans la longue durée.
Oui.
Derrière l'idée de choisir le sujet de procès des sorcelleries, il y avait en fait un film. Un autre film.
Un autre film, oui.
Oui. Ce grand film de Dreyer, Dies Irae. Et ce qui m'avait frappé dans ce film en noir et blanc, c'est le fait que d'un côté il y a une vieille femme accusée d'être sorcière, et de l'autre côté il y a de jeunes hommes, disons habillés et d'une façon très élégante, etc. Et ils parlent entre eux. Et évidemment, il s'agit d'une élite, de gens qui font part d'une élite. De l'autre côté, il y a une paysanne. Et qu'est-ce que ça voulait dire? J'étais vraiment très frappé par ça. Mais de toute façon, il y avait aussi autre chose. J'ai décrit, disons, ce qui était inconscient d'une façon surprenante derrière la choix que je faisais, c'est-à-dire mes souvenirs d'enfance qui avaient transformé ce que j'étais dans un enfant juif. Or, j'avais pas compris à l'époque que essayer de saisir les attitudes et les voix des persécutés à travers le filtre des archives de l'acquisition, des archives de la persécution, était quelque chose de quand même paradoxal. Ce qui impliquait, disons, une réflexion sur les méthodes de l'historien.
Oui.
Bon, ça m'est arrivé ensuite. Mais il y avait des livres, disons, dont j'étais conscient, qui m'ont poussé vers, disons, ce sujet. D'abord, le livre de De Martino, Le monde magique.
Oui.
Ensuite, Carlo Levi, Chris s'est arrêté à Eboli. Et ensuite, les cahiers de prison de Antonio Gramsci.
Oui.
Avec ses réflexions sur la culture des classes subalternes. Alors, j'ai commencé à travailler sur les procès des sorcières, etc., dont je ne savais rien. Et je crois que, disons, à l'époque, j'avais une idée naïve et presque grotesque, mais compréhensible dans un étudiant qui, disons, à la fin des années 50. C'est-à-dire, le sorcier et les sorcières en tant que, incarnation de la révolte, Michelet, et, disons, la sorcellerie en tant que phénomène d'une lutte des classes au niveau élémentaire.
Oui.
Alors, j'ai commencé à travailler dans les archives. C'est Delio Cantimori, le grand historien, qui m'a poussé vers les archives de Modène. Et là, à un certain moment, j'ai trouvé un procès qui, disons, tout d'un coup, me paraissait une confirmation de mon hypothèse, c'est-à-dire une paysanne Chiara Signorini accusée d'être sorcière parce que elle avait été chassée par la dame qui était la propriétaire d'un champ, et il y avait cette accusation. Mais en fait, lorsque j'ai publié le premier article sur ce cas, les titres étaient différents: sorcellerie et piété populaire.
Oui.
Pourquoi? Parce que Chiara Signorini, à un certain moment, dit « Oui, j'ai fait ça. » Elle était poussée par, disons, les questions suggestives et la torture aussi de l'inquisiteur. « Oui, j'ai fait ça, mais j'étais poussée par la Vierge. » La Vierge. « Oui, elle était belle, rubiconde. » Alors, il y a cette description et j'étais frappé par quoi? Par le fait que dans un document contrôlé par, disons, l'inquisiteur et les notaires de l'Inquisition, il y avait quelque chose qui émergeait entre les lignes, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas contrôlé, quelque chose qui était inattendu. C'est-à-dire,
qui se trouve dans un texte, dans un document judiciaire, qui c'est comme si involontairement, c'est un terme que vous employez souvent, et Marc Bloch aussi, on va y revenir, puisqu'il vous a tant marqué, ce sont des petites choses, des documents qui servent à autre chose qu'à penser l'histoire, qui servent à un procès judiciaire. Vous sentez là, je serais presque tentée de dire, comme le motif dans le tapis de Henry James, c'est-à-dire tout d'un coup, quelque chose de très important sur l'époque se révèle dans un document.
Oui.
Presque involontairement?
Oui, mais petite ou grande. Dans le sens que, lorsque j'ai vu cette confirmation, entre guillemets, de mon hypothèse, j'étais déçu.
Ah.
Parce que j'ai pensé, oui, c'est trop facile, etc. Alors, j'ai commencé un tour d'archives en Italie pour retrouver, disons, des archives de l'Inquisition, et j'ai commencé à Venise. Alors, à Venise, j'ai commencé, comme j'ai écrit il y a longtemps, à jouer ce que j'ai appelé ensuite la roulette vénitienne. C'est-à-dire que j'entrais dans les archives et je dirais, et il y avait disons un fond remarquable, mais une centaine de boîtes. Et alors je disais 3, 4, 50, 86. Et à ce moment-là, j'ai commencé à feuilleter. Il n'y avait pas de traces, à l'exception d'un inventaire rédigé à la fin du 19e siècle. Mais c'était quelque chose de très sommaire, c'est-à-dire qu'il y avait les noms des accusés, parfois l'accusation, mais d'une façon très, très sommaire, c'est-à-dire sorcellerie, blasphème, hérésie. Bon. Alors, à un certain moment, j'ai commencé à feuilleter un petit fascicule fin 15e siècle, 16e siècle, où il y avait un inquisiteur qui interrogeait un bouvier, un jeune bouvier du Frioul. J'étais pas conscient à ce moment-là que le Frioul était tout à fait crucial.
Oui.
Alors, le jeune bouvier Menichino della Tisana a commencé à répondre à une question tout à fait inattendue pour moi et pour lui aussi. C'est-à-dire, on dit que vous êtes benandante, mais qu'est-ce que ça veut dire benandante? Benandante, j'avais jamais entendu ce mot. La signification était claire, c'est-à-dire ceux qui vont pour les biens, etc.
Pour essayer de châtier les 10 sorciers, ils savent, c'est pas ça?
Non, c'est-à-dire que...
Je résume alors, un peu abruptement.
Alors, il y a la surprise et la lecture lente. C'est-à-dire, alors je trouve, disons, cette question inattendue. Et encore plus inattendue, c'était la réponse de Menichino, qui dit... Après quelques hésitations, etc. Oui, je suis benandante parce que, comme les autres benandantes, je suis né coiffé. Et nous sortons en esprit pour lutter contre les sorciers et les sorcières dans les prés de Josaphat avec des branches de fenouil. Et, disons, ce qui est l'enjeu, c'est la fertilité des récoltes. Si nous gagnons, il y aura une bonne récolte. Si les sorciers et les sorcières vont gagner, ce sera la famine. Alors, j'ai lu ça, j'ai fermé les fascicules, je suis sorti et j'ai commencé à me promener à côté de l'archive, c'est-à-dire vers Santa Maria dei Frari. Et j'ai fumé des cigarettes. À l'époque, j'ai fumé des cigarettes. Et je rappelle ce détail ridicule parce que je mesure la distance par rapport à ces moments qui a, disons, été le moment crucial dans ma trajectoire. Et j'avais trouvé ce document tout à fait exceptionnel, mais dans le sens que l'écart entre les attentes de l'inquisiteur et les réponses du benandante était incroyable. Quelque chose que je n'avais jamais rencontré dans les procès des sorcières que j'avais lus. Ensuite, j'ai continué mon tour à travers l'Italie et l'étape successive, c'était Udine, parce que je savais qu'il y avait un fond remarquable des procès d'inquisition dans le palais arcivescovile,
oui.
Où il y a ces fresques magnifiques de Tiepolo. Et on m'a dit « Non, c'est pas accessible ». Alors, je suis allé à la bibliothèque communale et là, par hasard, j'ai trouvé un document, c'est-à-dire un livre manuscrit rédigé par un inquisiteur au début du XVIIIe siècle avec une liste, avec des résumés en latin du premier millier de procès d'inquisition célébrés en Frioul. Alors, j'ai commencé à parcourir ça. C'était un peu comme, disons, il avait été volé de l'archive épiscopale. Et bon, c'était un peu comme, disons, lire un menu extraordinaire, mais le banquet n'était pas accessible. Ensuite, j'ai pu commencer à travailler sur ces procès. Parce que j'avais découvert, en lisant ces documents, qu'il y avait des dizaines et dizaines de procès contre les benandanti, hommes et femmes. C'est-à-dire que là, il y avait, disons, une bifurcation. Les hommes se battaient en esprit contre les sorciers et les sorcières. Les femmes étaient capables de voir la procession des morts. Alors, tout ça était tout à fait éloigné par rapport aux stéréotypes du sabbat.
Donc il faut savoir être surpris par les sources. Et là, ça ne correspondait peut-être plus à vos théories intuitives. Il y a une surprise majeure de l'historien qui fait partie de sa prudence, de sa modestie. Savoir être surpris par la singularité d'un cas et d'une archive particulière dans une époque.
C'est-à-dire que, alors là, évidemment, je suis un peu perplexe parce que, disons, j'ai la tentation de projeter d'une façon rétrospective ce que j'ai appris à travers les décennies, en travaillant pas seulement sur les procès d'inquisition. C'est-à-dire que évidemment, il y avait, disons, des attitudes, de filtres conscients et inconscients. Alors, par exemple, au début, il y avait certainement une proximité potentielle, émotive, émotionnelle avec les victimes, pour les raisons
que vous avez dites et oui, qui sont importantes.
Exactement. Mais ce que j'ai appris ensuite, mais ensuite, après des décennies, c'était quelque chose de troublant, c'est-à-dire une contiguïté intellectuelle entre moi et les inquisiteurs.
Ah, en fait,
oui.
Vous l'avez...
Eh oui.
Ah, jusque-là, vous êtes allé.
Ah oui, oui. Alors, j'ai écrit un article qui s'appelait « L'inquisiteur en tant qu'anthropologue ». Il est sorti en anglais, ensuite il a été traduit, etc. Et je me rappelle que j'étais à Moscou pour donner une conférence, etc. J'ai reçu un coup de fil et de l'autre côté, quelqu'un m'a dit « Alors, on voudrait vous inviter à une discussion publique sur votre article « L'inquisiteur en tant qu'anthropologue ». J'ai dit, oui, mais vous, vous êtes qui ? L'association mémoriale. Eux, dans ce moment-là, ils travaillaient. D'un côté, ils luttaient pour protéger les droits humains, disons, dans les Caucases. Mm-hmm. Et de l'autre côté, ils avaient commencé déjà depuis longtemps à recueillir des documents sur les goulags. J'avais, disons, entendu parler de cette institution, etc. Mais j'étais en même temps surpris, flatté, surpris par l'idée qu'ils voulaient discuter avec moi sur ces sujets. Alors, cette discussion était surprenante parce que ils ont dit, écoutez, votre façon de lire d'une façon oblique les procès d'inquisition, est-ce que vous pensez qu'on pourrait utiliser cette approche pour les procès de l'ère stalinienne ?
Pour les critiquer également, ça vous
dire ? C'est-à-dire,
ou pas forcément.
Pour les lire.
Pour les lire.
Pour les lire. Pour les lire d'une façon oblique. Même, je crois, pour, disons, saisir quelque chose qui n'était pas prévu par, disons, les juges.
Oui. Oui.
C'est-à-dire, il avait compris qu'il y avait quelque chose de... cette approche aux documents, même aux documents qui, par définition, paraissent tout à fait contrôlés, il y avait quelque chose d'inattendu. Alors, l'idée de révélation involontaire, c'est quelque chose qui est surgi dans ma mémoire beaucoup plus tard. Et j'ai un essai ici, dans ce livre qui vient de sortir, « La lettre est tue », qui, justement, a ce titre « Révélation involontaire
voilà. ».
Disons, une expression
est-ce
utilisée par
oui.
Marc Bloch.
Voilà, on va y venir,
oui,
parce que c'est important.
Mais aussi
oui.
par Alessandro Manzoni.
Ah.
Oui. Et il y a cette convergence inattendue.
Donc, « La lettre tue », c'est un ensemble d'essais que vous aviez fait paraître en 2021 et qui vient d'être traduit chez Verdier. Donc, en 2024, il y a un très beau papier qui vient de sortir dans Art Press, qui est une belle critique de votre...
Oui.
Vous êtes content, hein
ouais.
Et il y a de quoi, c'est l'excellent Philippe Forest qui a rédigé ouais. cette critique.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Merci, Carlo Ginzburg, pour cette trajectoire que vous avez rappelée, ce rapport à la surprise dans votre métier d'historien. Étienne Hanheim, moi, ce qui m'étonne et m'intéresse beaucoup, là, vraiment, c'est le rapport que j'ignorais, en tout cas dans toute son acuité, de Carlo Ginzburg à Marc Bloch. Parce que nous avons parfois une vision des annales, de l'école des annales, Marc Bloch, Lucien Febvre, plus tard Brodel, comme de gens qui regardaient l'histoire de très haut, de très loin, en parlant de la géographie, des climats, des causes profondes, au-delà des individus, peut-être même des invariants, peut-être même un pont vers le structuralisme, certains ont dit cela. Et au fond, ce que nous rappelle Carlo Ginzburg, c'est que ce n'est pas vrai, c'est que il faut faire attention, il y a chez Marc Bloch notamment une attention extraordinaire aux sources les plus inattendues, aux discours, aux traces, des choses qui, effectivement, vous semblent ressembler à la démarche de Carlo Ginzburg, Étienne Hanheim.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et de fait, Marc Bloch est un des historiens les plus souvent cités par Carlo Ginzburg dans son travail. Et il faut rappeler, pour commencer, qu'il y a en fait plusieurs annales, ou plusieurs moments de l'histoire des annales, et que certains ont laissé plus de traces imaginaires que d'autres, et effectivement, le moment peut-être lié à Fernand Braudel, au structuralisme, à l'histoire quantitative, qui est un moment contemporain de la jeunesse de Carlo Ginzburg, est peut-être un moment qui nous semble plus éloigné, mais le moment fondateur, c'est-à-dire l'élan fondateur des annales, qui vient des années 20, des années 30, est un moment qui est très étroitement lié, je pense, à ce que Carlo Ginzburg et d'autres ont essayé de faire dans les années 1960-1970. Et de ce point de vue, Carlo Ginzburg dit qu'il a trouvé par hasard ce volume de 1924 dans la bibliothèque de la Scuola Normale et Supérieure de Pise. Peut-être qu'il était arrivé là aussi parce qu'il y a des gens à Pise, dans ce milieu intellectuel extraordinaire, qui s'intéressaient aux annales, comme Cantimori ou Arsenio Frugoni.
Non, c'était pas la bibliothèque de l'École Normale. C'était une bibliothèque proche, à Pise, mais je ne sais pas, c'était... Alors, il y avait, disons, la collection des annales à partir de la Fondation, etc., et aussi cet exemplaire.
Alors, en tout cas, cet exemplaire était arrivé là, ouais. Et de fait, c'était le livre. Marc Bloch était un peu moins célèbre durant ces années qu'il l'avait été et qu'il le sera de nouveau. Il y a une éclipse de Marc Bloch qu'on a du mal à se remémorer, mais en même temps des resurgissements, par exemple en Italie. Et ce livre est un livre...
Les Rois Tomatouches, voilà, qui paraît en 1924.
Hein. Donc on est avant la fondation de la revue en 1929, oui, oui. Mais on est dans le bouillon de culture de Strasbourg, de l'université de Strasbourg, qui a été reconstruite par les Français en 1919, par opposition à ce qu'avait été la vitrine de la science allemande. Donc beaucoup de jeunes professeurs sont nommés, c'est là où Bloch et Fèvre commencent à travailler ensemble, mais avec beaucoup d'autres, et qu'ils inventent en fait l'essentiel des outils qui vont servir en 1929 à la fondation de la revue des Annales. Et c'est un livre essentiel parce que, comme vous l'avez dit, c'est un livre qui prend un peu à rebrousse-poil la méthodologie historique classique et en particulier l'idée de faire un livre sur les rois, parce qu'au fond c'est un livre sur les rois, mais ça n'est pas un livre d'histoire politique, d'histoire événementielle dans le sens classique, oui, du début du siècle. C'est un livre qui part d'un détail, c'est-à-dire cette capacité de guérison des écrouelles des souverains français et anglais, qui paraît surnaturel aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant aussi parce que c'est un livre qui part d'un détail contre-intuitif, quelque chose qui semble faux, et on pourra en reparler, mais à partir duquel Bloch va réélaborer toute une méthodologie historique. C'est-à-dire comment une croyance qui peut nous paraître aujourd'hui surnaturelle peut être révélatrice de l'histoire d'une institution, de l'histoire d'une société dans la très longue durée. Et c'est ça qu'on retrouve dans ce que Carlo Ginzburg a dit tout à l'heure. C'est-à-dire cette façon contre-intuitive qu'ont les historiens et les historiennes de travailler en partant de quelque chose qui peut être faux, factuellement, mais qui peut être réinvesti d'un travail historique et qui est révélateur de quelque chose. C'est-à-dire que le travail des historiens, ça n'est pas simplement de trier le vrai et le faux. Ça ne veut pas dire que le vrai et le faux ne sont pas importants. Mais trier le vrai et le faux, ça pose des questions non seulement de discrimination des faits, mais aussi d'interprétation de ce qui peut nous paraître faux. C'est-à-dire, au fond, pourquoi les gens ont cru et pourquoi ils ont cru aussi longtemps à des choses qui peuvent nous paraître aujourd'hui surnaturelles, mais qui avaient une signification pour les sociétés anciennes.
Je vous en prie, Carlo Ginzburg, oui. Bien sûr, réagissez,
oui,
à ce commentaire.
Alors, en t'écoutant, j'ai pensé aux réflexions de Bloch dans le métier d'historien. Et lorsqu'il dit que, disons, il faut essayer de saisir les vrais dans le faux et dans l'effectif. Là, je cite les sous-titres d'un livre que j'ai publié, Les fils et les traces, vrai, faux, fictif. C'est-à-dire que, il y a ça. De l'autre côté, oui, je pense que ce que Bloch a fait dans ce livre en 1924, c'était une étude des cas. Et alors, le cas, par définition, implique une généralisation. Mais ça, c'est quelque chose qu'il ne dit pas, et c'est quelque chose que j'ai compris après des années et des années.
Et vous pensez aussi que le cas implique une généralisation?
Mais oui, mais ça, alors ça, c'est évident. Lorsqu'on pense à ce que le cas implique dans la, disons, médecine, depuis la Grèce, oui, ancienne, oui, la théologie et le droit.
Oui.
Alors, il y a ça.
Et c'est ça l'enjeu de votre méthode historique.
Oui, c'est-à-dire que, disons, ma trajectoire vers la micro-histoire a été liée au cas. Alors, le micro, c'est pas lié à les dimensions de l'objet, c'est sont pas liés à, disons, un individu. Dans le sens que, par exemple, la série Microstoria que j'ai dirigée avec Giovanni Levi et Simona Cerutti chez Inaudi, cette série a commencé avec un livre que j'avais écrit, que j'ai publié dans cette série, sur Piero della Francesca. Individu, bon, certainement pas un petit individu, c'est-à-dire c'était le monarca de la pittura, comme on disait à l'époque, un roi de la peinture. Mais peut-être parfois, non, dans cette série, on a publié des livres qui n'étaient pas liés à, disons, à un individu, mais à un village, une communauté, etc., etc. Or, oui, non, pardon.
Non, mais je pense que c'est un exemple très important parce que, au fond, le problème de la micro-histoire est un problème qui ne se comprend que sur la toile de fond d'une question d'histoire des sciences. C'est qu'est-ce qui fait science dans l'histoire?
Oui, exactement.
Et précisément,
c'est une des questions de notre série. C'est
à un moment donné,
l'axe.
Justement, Bloch a déplacé, Bloch, Fèvre et quelques autres ont déplacé dans les années 20 cette question. Et Carlo Ginzburg l'a redéplacé dans les années 60. Donc la micro-histoire, c'est une méthode qui consiste à s'intéresser à des indices, à des détails, à descendre à l'échelle locale, mais c'est une méthode qui ne se comprend que sur la toile de fond d'une question plus générale qui est le problème de la généralisation, le problème de la véracité. Et du coup, il y a une sorte de tension, si vous voulez, et même dans l'œuvre de Carlo Ginzburg, dire aux auditeurs, aux auditrices, il y a une tension entre des études qui sont extrêmement fines de personnages, parfois individuels, c'est le cas de Menocchio Samenier qui est brûlé par l'Inquisition, et puis, à l'autre extrémité du spectre, il y a des propositions de morphologie historique et presque structurelle, plutôt que structurale, extrêmement vaste, comme sur le sabbat des sorcières, où Carlo Ginzburg cherche à faire émerger des blocs, de structuration des sociétés humaines dans la très longue distance et dans l'espace.
Oui. Alors, tu viens d'évoquer ce livre, Le fromage et le verre. Et là, je dois dire, une petite anecdote. C'est-à-dire que Fernand Braudel a lu les livres tout de suite. Et il a envoyé une lettre que j'ai lue en copie, envoyée à Giulio Einaudi, et en disant, je veux publier ce livre dans la série dont je suis responsable chez Flammarion. Mais le titre est tout à fait inacceptable. Alors j'ai pensé, oui évidemment, en Italie, en Sardaigne, dans les Abruzzi.
Il n'a pas compris que c'était magnifique.
Non, mais c'était une plaisanterie. Oui. C'est-à-dire que en Sardaigne, dans les Abruzzi, littéralement, il y a des fromages avec des verres.
Oui.
Mais alors, disons, en France, c'était
c'était troublant.
Non, alors, je souligne ça parce que vraiment, la générosité intellectuelle de Fernand Braudel m'a frappé beaucoup.
Tous ces liens sont très touchants. Hein? Ces liens entre vous et l'École des Annales, diverses figures, sont très touchants et je pense évite des faux sens rapides qui opposeraient ces méthodes, celle des annales et la vôtre. Alors, comme vous avez cité ce texte que vous avez écrit, qui est apparu en 1980 dans le débat en français, « Signes, traces, pistes », je voudrais maintenant qu'on ait une petite analyse de ce que vous dites là et qui constitue ce qu'on appelle le paradigme indiciel que vous avez véritablement inventé, conceptualisé. Alors, ce que vous dites, c'est que il s'est passé quelque chose de très important à la fin du 19e siècle, où, dans plusieurs domaines du savoir, on a pensé qu'on pouvait fonctionner par indices. Vous évoquez Giovanni Morelli, qui, en peinture, établit des indices permettant d'authentifier mieux les tableaux, de dire si ce sont des copies ou des originaux, et de vérifier mieux qui a pu peindre tel tableau. Vous évoquez Arthur Conan Doyle, l'écrivain, l'auteur du personnage de Sherlock Holmes, et la science des indices qui se développe dans ces romans policiers. Et puis, vous faites un lien évidemment avec la médecine qui fonctionne par indices, symptômes et indices depuis toujours, et bien évidemment avec la psychanalyse, sachant que Freud, dites-vous, connaissait très bien Morelli, le cite, et plusieurs fois d'ailleurs. qu'est-ce que cette méthode des indices redistribue, comme diraient les philosophes, épistémologiquement? Qu'est-ce que ça change dans la connaissance de l'histoire par rapport au traitement traditionnel des sources?
Eh bien, il s'agit, disons, des traces inconscientes. C'est-à-dire que Morelli dit on peut identifier un original en tant qu'original et pas une copie en analysant, disons, sur la base de certains indices comme disons le lobe des oreilles, les ongles, c'est-à-dire quelque chose qui, disons, n'est pas quelque chose qui a été copié d'une façon délibérée comme les sourires de tableaux de Léonard, etc. Alors il y a là cette hiérarchie entre, disons, quelque chose qui est inconscient et mais révélateur.
Oui.
Et là, il y a la rencontre entre Morelli et Freud. C'est-à-dire que Freud a acheté un exemplaire d'un livre capital de Morelli lorsqu'il était à Milan, en 1898. Le livre est à Londres, dans les fragments de la bibliothèque de Freud lorsqu'il a dû quitter Vienne.
Vienne, oui.
Et Freud a signalé la dette intellectuelle de la psychanalyse à l'égard de l'œuvre de Giovanni Morelli dans un article qu'il a publié d'abord d'une façon anonyme sur les Moïse de Michel-Ange.
Oui, en 1914.
Et ensuite, il a, disons, republié l'article avec son nom. Et ensuite, il y a, disons, Conan Doyle. Il y a aussi un détail que oui.
Il parle des oreilles, d'ailleurs. Il y a une nouvelle, la boîte en carton, où il faut analyser de près les oreilles coupées qu'une vieille dame reçoit par la poste.
Exactement. Mais il y a aussi un détail que j'ai mis dans une note, c'est-à-dire que l'oncle de Conan Doyle était le directeur du musée des Beaux-Arts de Dublin. Alors, il connaissait évidemment, disons, l'œuvre de Morelli. Alors, là, il y a un réseau, mais ce que j'ai essayé de faire par rapport à la première rédaction de cet article, alors je suis allé en arrière et, disons, jusqu'à la période néolithique. Alors là, c'était, disons, une histoire conjecturale comme on la faisait au XVIIIe siècle. Et j'ai essayé de montrer que, bon, il y a eu continuité, discontinuité, mais, disons, une attention aux traces, etc., et aussi une tentative d'utiliser ces traces dans des perspectives différentes. Alors, il y a le cas, disons, typique des empreintes digitales,
oui,
qui faisaient partie de la culture d'une population indienne, etc., mais qui ont été récupérées par les colonisateurs en tant qu'instrument de contrôle.
Cette question du traitement des sources est important. J'aimerais bien savoir comment vous, aujourd'hui, Étienne Anaheim, vous qui connaissez l'école des Annales, connaissez aussi très bien l'œuvre de Carlo Ginzburg, comment aujourd'hui tout ce qu'a apporté le paradigme indiciel de Carlo Ginzburg, comment ça travaille la science historique? Et si vous me le permettez, ce que dit aussi Carlo Ginzburg, c'est que tout cela renvoie à d'autres débats déjà du début du XVIIe siècle, où il y avait le paradigme de la science qui était celui de Galilée, les mathématiques, c'est sans odeur ni saveur, il n'y a pas de choses sensibles là-dedans. Et face à cela, il y a ce que Ginzburg appelle le paradigme de ce médecin de Sienne qui s'appelait Giulio Mancini, à peu près à la même époque, si je vous ai bien lu, Carlo Ginzburg, qui dit mais tout est dans le sensible et l'essentiel des sources historiques, c'est du sensible et c'est comme ça qu'on établit des faits. Ce débat est important, non, pour les historiens?
C'est un débat très important qui a aujourd'hui une actualité à la fois épistémologique et politique. Et je pense que c'est important de voir les deux dimensions. Une actualité épistémologique parce que ce que Carlo Ginzburg a essayé de faire et d'autres avec lui, c'est à proposer un modèle de scientificité qui ne se réduise pas à ce paradigme galiléen, c'est-à-dire à l'idée que faire de la science, c'est décrire les lois de la nature. Et justement, une partie du travail de beaucoup d'historiens et d'historiennes du XXe siècle ont été de montrer qu'il y a une science historique possible, mais qui n'est pas nomologique au sens de la physique, mais qui peut suivre des règles et des règles critiques et construire un certain nombre de raisonnements. Et aujourd'hui, où on est dans un moment où peut-être que les deux cultures des sciences humaines et des sciences de la nature s'opposent moins. Je pense que c'est un enjeu épistémologique essentiel parce qu'aujourd'hui, on est sur toute une série de confronts, les sciences de l'environnement, les sciences du corps et le fait que la médecine ait joué un rôle tellement important dans le développement de cette réflexion chez Carlo Ginzburg est révélateur. On est dans des mondes où, au fond, les sciences humaines et les sciences de la nature s'interpénètrent et on doit repenser des modèles de scientificité. Et de ce point de vue, les propositions de Carlo Ginzburg sont très importantes. Ça, c'est l'aspect épistémologique. Mais en même temps, derrière, on voit bien qu'il y a un aspect que je dirais politique, parce que aujourd'hui, la science est attaquée de mille façons. Les conclusions de la science sont attaquées elles aussi. Et donc, la question de savoir, à un moment donné, ce qui fait science et ce qui fait démonstration, ce qui est acceptable pour une communauté scientifique, mais aussi entendable pour une communauté politique qui parfois voit des conclusions qui lui sont déplaisantes, et c'est le cas dans le domaine du climat, eh bien, comment aujourd'hui, finalement, ces questions continuent à se poser? Et là, on revient à la question de la vérité, de la facticité.
Et de la factualité sensible.
Et de la factualité.
Qui permet de dépasser simplement ce qu'on en pense, les constructions de monde, de langage, les opinions, etc.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mulman.
Alors ça, je voudrais que ce soit un peu notre dernier échange dans cette émission, ça me paraît très important. Carlo Ginzburg, aujourd'hui, vous le dites vous-même, vous le dites dans l'entretien que vous avez donné à Philippe Forest dans cet article d'Art Press, vous le dites dans la préface que vous avez faite à ce recueil de textes qui vient de paraître chez Verdier. Les faits aujourd'hui, avec les deepfakes, avec l'extraordinaire difficulté à croire ce qu'on nous raconte, ce qui peut être positif, le scepticisme a quelque chose de positif, mais quand ça devient systématique, le fondement de ce qui nous permet de croire est devenu malade. Est-ce que vous diriez, vous feriez l'apologie aujourd'hui du travail de recueil des données sensibles? Et est-ce que c'est cela qui vous a opposé, par exemple, à Hayden White, qui était un historien dans les années 70, qui disait les faits, c'est toujours un univers de langage, les faits sont du langage. Vous n'étiez pas d'accord avec ça. Et c'est très riche, la position que vous avez eue à ce moment-là. Pour nous, aujourd'hui, ça me paraît très important.
Oui, alors bon, il y a eu, disons, un débat, lorsque Hayden White est venu à UCLA, il a présenté ses thèses, et j'étais dans le public, alors j'ai commencé, j'ai posé une question, j'ai des objections, etc. Ça a été un débat très dur, très poli. Mais ça a laissé des traces. Je crois qu'il y a deux livres sur ces débats. Ce qui est insolite. Oui. Mais, disons, je pense, et là c'est plutôt récent, que, en fait, Hayden White ne donnait pas une grande importance à ce qu'on appelle le fait ou la réalité, etc. Il a donné une interview, ce que j'ai appris après sa mort, un journal italien, Il Manifesto. Et alors, ils ont posé la question, qu'est-ce que vous pensez de, disons, votre débat avec Carlo Ginzburg? Alors, il a dit, oui, il a une conception biblique. Bon, je ne sais pas.
Biblique? Alors, biblique. C'est du sensible que vous invoquez.
Non, attendez. Biblique oui. De la vérité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais de toute façon, il a écrit un livre, Le fromage et les vers, qui est en fait un livre de fiction. Il y a seulement quelques lignes et il a écrit un livre là-dessus. Alors, tout ça est absurde. Disons, les actes de deux procès contre Menon qui ont été publiés, plus de 200 pages. Alors, c'est scandaleux, si vous voulez. Mais de toute façon, il y a quelque chose de plus sérieux derrière ça. C'est-à-dire le fait que, disons, la réception globale de ces thèses sceptiques, néo-sceptiques, est quelque chose de troublant. Et à mon avis, c'est quelque chose qui a, je dirais d'une façon rétrospective, a faibli la résistance aux fake news. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous aujourd'hui.
Et j'aimerais bien qu'Étienne Hanheim, avec son expérience dans sa génération, aujourd'hui en histoire, nous dise comment vous vivez cette époque où on croit si mal et si peu. Et ce que vient de dire là Carlo Ginzburg est terrible.
Alors le débat entre Carlo Ginzburg et Aidan White a été un débat structurant pour les gens comme moi qui ont commencé à faire de l'histoire au début des années 1990. Et il faut comprendre qu'il se situe dans une très longue durée. C'est-à-dire que la critique des faits, c'est le métier des historiens.
Oui.
Donc, mettre en doute la réalité de ce qui est écrit en disant que parfois ce qui est écrit est faux ou qu'il faut le critiquer, c'est une base de la méthode critique. Et à un moment donné, il y a une sorte d'emballement d'une partie de c'est-à-dire le moment où finalement, face au dogmatisme qui a pu être le cas dans la plupart des sciences au XXe siècle, s'élève une sorte de scepticisme radical qui détruit la base même, disons, de la construction du savoir.
Est-ce que le scepticisme peut avoir de très sain, comme vous venez de le dire ? C'est un emballement.
Et un élément de cristallisation de ça, c'est le débat sur le négationnisme. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a là tout le temps des moments de croisement entre le politique et l'épistémologique. Il y a un moment donné où on dit, voilà, il faut critiquer les faits, mais quand on se trouve face à des gens qui nient la réalité de l'Holocauste, alors que devient le discours méthodologique de l'historien qui dit qu'il faut critiquer les faits ? Et on ne peut comprendre la discussion de Carlo Ginzburg et d'Aidan White que sur la toile de fond de ce moment qui a aussi été très important dans l'œuvre de Carlo, sur le négationnisme et la capacité des historiens et des historiennes à prendre en charge, du point de vue de la méthode, le traitement d'un objet comme l'Holocauste. Et donc de reconstruire, à partir de ce point-là, mais d'un certain nombre d'autres points, de reconstruire une méthode critique, si vous voulez, qui ne soit ni dogmatique, ni sceptique, mais qui dise que la science peut éclairer un certain nombre de problèmes à condition d'en connaître les procédures, les méthodes. Et aujourd'hui, c'est ça qui est le vrai enjeu. C'est-à-dire que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que on a les ravages d'une forme de scepticisme qui, aujourd'hui, on le voit aux États-Unis, confine à l'obscurantisme. Et d'un autre côté, la tentation de la restauration d'un néo-dogmatisme où il s'agirait de
on dit parfois,
voilà de positivisme, de dire non, mais en fait, la vérité, on sait ce que c'est et la vérité, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Or notre enjeu pour nous, je dirais, là où nous avons collectivement, tous les scientifiques de toutes les disciplines, une tâche d'élucidation à mener, c'est de dire, entre le néo-dogmatisme et le scepticisme obscurantiste, il faut expliquer ce qu'est la science, comment elle se construit, patiemment, lentement, avec des erreurs, avec des errances, mais c'est ce que nous avons de mieux, je dirais, pour connaître le monde dans lequel on vit. Et c'est ça, je pense, une des grandes leçons de Carlo Ginzburg.
Carlo Ginzburg.
Oui. Alors, merci, Étienne Danheim. Deux remarques. D'abord, dans un essai que j'avais lu de Aidan White, avait écrit que, disons, ce que les négationnistes comme Forisson disaient, c'était quelque chose d'intolérable du point de vue éthique, politique, mais il ne pouvait pas, disons, démontrer que c'était faux. Alors, ça, c'est incroyable, incroyable. J'ai pensé tout de suite au grand essai de Pierre Vidal-Naquet.
Merci de le citer ce matin.
Article, oui, un Eichmann de papier, que j'ai commencé à lire avec un sentiment tragique, en réfléchissant sur les parents de Pierre Vidal-Naquet, etc. Mais il a essayer de montrer, et il a démontré, si vous voulez, quelque chose qui était, si vous voulez, évident, mais il a voulu démontrer que il y a eu, disons, extermination des Juifs en tant que geste délibéré massif.
Avec des preuves sensibles.
Oui, ah oui, oui, exactement. Le chambre à gaz, etc. Mais l'attitude de Aidan White n'était pas nouvelle. C'est-à-dire que il y avait, disons, un scepticisme, un pyrrhonisme qui avait des précédents. Et contre le pyrrhonisme, l'antiquaire a été, disons, un phénomène qui a analysé les traces, etc., comme a démontré Arnaldo Mumigliano dans un article magnifique.
L'antiquaire qui retrouve des traces sensibles, c'est
oui,
ça que vous dites.
Oui. Et justement, Mumigliano, dans cet article en 1950, a écrit « L'histoire, comme nous la concevons, c'est, disons, la convergence de l'histoire philosophique à la Voltaire et, disons, l'antiquaire. » Or, Momigliano a été, disons, indulgent à l'égard de Hayden White. Mais je pense que, disons, tout ça a contribué, comme je disais, à une faiblesse à l'égard de fake news.
Je vous laisse le dernier mot, Étienne Anaheim, vous qui êtes un jeune chercheur en histoire et qui arrivez dans cette époque où... Et puis je ne voudrais pas non plus qu'on croie que le scepticisme et même le pyrrhonisme soit l'horreur. Ça a aussi été un quelque chose de vif qui nous donne à penser. Il y a aussi une fonction critique du sceptique. Malheureusement, c'est ce que vous disiez, je crois, Étienne Anaheim, c'est la radicalité, le fait que on ne croit rien et puis finalement, bizarrement, dans les fake news, on a l'impression que les gens croient énormément et très naïvement plein de choses très vite.
Non,
c'est
on ça croit rien faut... et en même temps on croit n'importe quoi. Et d'ailleurs, si Marc Bloch a écrit Les Rois Thaumaturges en 1924, c'est parce qu'il avait avant écrit un célèbre article sur les fausses nouvelles de la guerre en 1921, où il dit que dans les tranchées, les gens croyaient toutes les rumeurs. Et donc c'est tout à fait ce texte-là et d'autres qu'on peut relire aujourd'hui, 100 ans plus tard. C'est-à-dire, comment avoir une économie de la croyance et une éducation à la critique, où il s'agit ni de croire tout ce qu'on dit, ni en même temps de douter de tout. Et de ce point de vue, la question de la science, je l'entends au sens fort ici, parce que la science a été parfois un discours de domination, d'appropriation, mais en même temps, c'est de la science que peut venir aujourd'hui, je pense, un éclairage qui est à la fois un éclairage politique, éthique, épistémologique et démocratique, disons-le. Little thing that you do, make me glad, I'm in love with you, little thing. That you say make me glad that I feel this way. The way you smile, the way you hold my hand, and when I'm down, you always understand. You know I love those little things in my ear that you say when there's no one here. Little things that you do, let me know that your love is true. When we walk, you like to hold my hand, and when we talk, you tell me I'm your man. You know I love those little things that I hear, the little things you whisper in my ear. I know there ain't nobody else like you. No one could do the little things you do. Little things that you do make me glad I'm in love with you. Little things that you say make me glad that I feel this way. When we walk, you like to hold my hand, and when we talk, you tell me I'm your man. You know I love those little things that I hear, the little things you whisper in my ear. I know there ain't nobody else like you. No one could do the little things.
Merci beaucoup. C'est un honneur de vous avoir reçu, Carlo Ginzburg, et puis vous racontez tellement bien la façon dont vous travaillez. Étienne Anaheim, merci d'avoir aussi partagé avec nous votre expérience de chercheur en histoire, et puis le fait qu'il y ait cette sympathie entre vous est également très agréable et stimulant. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il réfléchit au respect. Voici le pourquoi du comment.
« Comment le respect peut-il être mutuel? On appelle respect le fait de manifester par un comportement concret que l'on considère quelque chose comme supérieur à nous, quelque chose devant quoi on s'incline, devant lequel on est prêt à sacrifier son propre intérêt. Et le plus souvent, ce respect, bien entendu, peut être pour une valeur qui nous amène à sacrifier notre propre vie, mais ça va se traduire aussi devant des personnes. Et la société est obligée d'organiser des hiérarchies et non seulement une sorte d'égalité formelle, mais aussi des hiérarchies fondées dans les démocraties sur une règle, sur une loi qui attribue des fonctions, et on doit respecter cette hiérarchie. Le respect est donc dissymétrique. Le respect est vertical. Le respect est fondé parfois sur l'autorité, et dans certaines traditions, sur une autorité donnée par la nature ou par Dieu. Ainsi, on dit « tu respecteras père et mère, tu respecteras le roi, tu respecteras celui qui est investi d'un pouvoir et d'une autorité, d'une hiérarchie absolue. » Encore une fois, dans les démocraties, on part d'un respect mutuel entre les êtres humains et on est obligé de construire de la verticalité, de construire de l'autorité pour que la société fonctionne. Le grand problème du respect, c'est de concilier le respect que les humains se doivent mutuellement les uns aux autres en raison de leur dignité irréductible, comme le disait Emmanuel Kant. Chacun doit traiter la personne de l'autre comme une valeur absolue supérieure à ses propres intérêts, et d'un autre côté, l'organisation de la hiérarchie, du respect dissymétrique, de la verticalité. On peut appeler tyrannie celui qui demande un respect absolu aux autres en s'interdisant ou en se dispensant lui-même de tout respect à l'égard des autres. La brute, c'est celui qui, sur le principe de sa propre force, impose la soumission aux autres et les domine sans aucun respect pour eux. Le mépris, l'humiliation sont la façon pour quelqu'un qui s'estime supérieur, au moins par la force ou par un pouvoir qui lui est conféré, de traiter les autres comme indignes de respect. Alors qu'ils sont, d'une certaine manière, en tant que personnes humaines, tous les êtres humains sont dignes de cette verticalité, de cette mutualité, d'un respect concret. Alors comment assurer ce respect mutuel? Comment ce respect mutuel n'est-il pas fragilisable par la tentation de faire comme fondement du respect la pure dissymétrie des forces, la pure dissymétrie de la puissance, la domination des uns sur les autres? Eh bien, la clé, c'est malgré tout le respect d'une loi commune, le respect d'une obligation qui est une obligation évidemment concrète, l'obligation de traiter l'autre de telle manière que je le considère comme objet de mon regard et de mes actions, comme finalité de mes actions, comme supérieur à mes intérêts, que je fais servir à lui, et réciproquement. Mais cette réciprocité du respect, cette mutualité, passe par le commun. Elle passe par la loi. Il faut que chaque citoyen ait le sentiment que tout le monde respecte les mêmes principes. L'obligation légale est venue consolider le respect mutuel, toujours fragilisé par la dissymétrie de la force et de la puissance. Seul le respect par des obligations permet la paix civile et le respect mutuel des êtres humains. Les chefs d'État eux-mêmes, en principe, doivent respecter la loi. On appelle tyran celui qui, justement, s'affranchit du respect de l'obligation commune. Le mépris, la brutalité, la vulgarité, la violence sont des formes de transgression que les responsables politiques devraient s'interdire encore plus que les autres. On peut donc considérer de manière très claire que plus on a d'autorité, plus on doit respecter les obligations communes. Ce qui ramènera le respect mutuel entre les humains, c'est le fait que dans la dissymétrie, tout le monde respecte malgré tout les mêmes principes communs.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Cassandre Puel avec à la technique François Saint-Jour. Elle a été préparée en particulier par Chaïma Giboire et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Carla Michel, Anna Feulpin et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.